Vivre FM podcast.
De 10h à 11h, la santé mentale en question, Anne Voileau.
C'est toujours avec plaisir que je reçois Angela Congedo, italienne d'origine et EMC. Elle était condamnée par les médecins à passer sa vie en fauteuil, mais c'était sans compter sur son indomptable énergie. Rescapée d'une enfance maltraitée, d'une année dans la rue, Angela lutte sans cesse pour sauvegarder son équilibre et son unité. C'est de toute cette vie de combats incessants qu'Angela vient aujourd'hui nous parler et nous transmettre cette merveilleuse et lumineuse force qu'elle a su acquérir. Restez avec nous sur Vivre FM. Angela, bonjour.
Bonjour, Anne.
Alors, c'est toujours avec plaisir que je vous reçois, mais vous commencez à être une habituée de notre micro.
Tout à fait. Depuis plusieurs années, je reviens. J'ai la chance de revenir régulièrement.
Oui. Mais nous, c'est un plaisir aussi pour nous. Alors, bon, tous les auditeurs n'ont pas forcément entendu la dernière émission. Donc, faut raconter qu'en fait, vous êtes née en Italie.
Oui, tout à fait. Je suis née en Italie, oui. Je suis née en Italie, au sud-est de l'Italie. Mais après... Je suis partie d'Italie, en fait.
Voilà, mais vous êtes née avec un handicap?
Oui, c'est un handicap moteur de naissance. J'ai eu une naissance très difficile. Je suis née à la maison. Je suis née prématurée à 7 mois. J'étais même, entre guillemets, destinée à mourir. Et bien, maintenant, je suis là.
Et alors, je pense qu'en Italie, à l'époque, bien que vous ne soyez pas âgé, hein, vous avez eu quand même un deuxième handicap qui était le fait qu'être... Naître avec un handicap était quand même pas bien vu.
Oui, la mentalité italienne, normalement, c'est une mentalité très latine, très fataliste, etc. Et alors, c'est pire encore, ou encore pire, de naître au sud-est de l'Italie.
Oui, en plus, oui. Donc, vraiment... ça fait quand même, ça a pesé sur votre vie. Ça, peut-être plus que le handicap physique.
Tout à fait, oui, ça a pesé énormément, mais je me suis toujours battue contre ça. C'est-à-dire, j'ai essayé de renverser cette réalité, de la transformer.
Ah bah vous êtes, de toute façon, vous êtes une battante. Hein. Mais alors, vous avez toujours été attirée par la France, pourquoi ?
Oui, parce que j'étais toute petite, j'avais 6 ans et demi, 7 ans, et bon, déjà, j'entendais parler français, plus ou moins français, même si c'était le français qu'on parle en Suisse, française, et ça, c'est autre chose.
Ça fait rien, c'est quand même du français.
Et puis, voilà, et puis, toute petite, j'étais attirée par la France, par Paris, par cette idée, par la suite, cette idée, les principes de la République française, égalité, fraternité, liberté, donc...
Mais ce sont des bons principes, encore faut-il pouvoir les appliquer.
Tout à fait, oui.
Mais alors, vous aviez-vous de la famille qui venait chez vous quand vous étiez jeune et qui parlait français un peu?
Oui, tout à fait, ils venaient chez nous de façon régulière, mais donc quand j'étais petite, à l'âge de 6 ans et demi, 7 ans, je m'amusais à les écouter parler.
Et à répéter, non, un peu?
Pas tellement, mais c'était plutôt que je m'appropriais de leurs mots. J'étais devenue, sans m'en rendre compte, une voleuse de mots.
Ah ouais.
Et c'est par la suite que je me suis appropriée de la langue, de la mentalité, de la culture française.
Oui, parce que c'était pas évident. Vous m'avez expliqué que avoir des livres, c'était pas quand même quelque chose de familier et de quotidien.
Pas du tout. C'était un luxe parce que pour ma famille, pour les gens qui ont été, ceux qui ont été mes parents, c'était pas important d'être des personnes cultivées, d'avoir la possibilité, l'opportunité d'aller à l'école, d'étudier, d'apprendre.
Qu'est-ce qu'ils faisaient comme métier, vos parents?
Mais ma mère était femme au foyer, elle était plutôt, à mieux dire, une couturière ratée. Elle aurait aimé devenir styliste à haut niveau, je ne sais pas.
Puis elle n'en a pas eu l'opportunité, de toute façon, là-bas,
voilà,
ce n'est pas évident.
Peut-être la version féminine de Giorgio Armani, voilà, juste pour faire un petit clin d'œil à l'Italie. Et mon père, je n'arrive même pas encore aujourd'hui à le définir. Au fond, c'était quelqu'un qui... Il n'avait pas l'idée très claire dans sa tête,
mais
dans son esprit.
Mais il avait un métier.
Bon, il faisait 2000 métiers, mais au fond, il ne savait pas trop quoi. Et quand il était jeune, il avait même essayé d'être musicien. Donc, voilà.
Ah bah quand même.
Oui, il jouait de la trompette.
Oui, mais ce n'est pas ce qu'il faisait travailler. Il avait bien un travail quand même.
Oui, quand il arrivait à travailler, quand il avait envie de travailler, il était menuisier.
Ah oui. Voilà. Bon, donc ça veut dire quand même que vous n'étiez pas très riche.
Non, pas du tout.
En plus.
Pas du tout.
Oui, ça n'aide pas quand même. Pour acheter des livres et tout, ça n'aide
Exactement,
pas.
Exactement, oui.
Et alors après, vous avez été en institution, c'était plutôt mieux que la famille ou Comment vous l'avez vécu, vous ?
Non, en réalité, j'ai vécu sans cesse entre deux enfers ou plusieurs enfers, parce que d'un côté, c'était l'enfer de la famille et de l'autre, c'était l'enfer des foyers pour enfants handicapés en Italie ou en France ou ailleurs, peu importe.
Donc, mais est-ce que dans les foyers, il n'y avait quand même pas de plus d'éducation possible ?
Oui, tout à fait. Bon, on m'a donné une certaine éducation. Toute seule, je me suis bâtie une certaine ouverture, surtout envers le monde extérieur, envers les autres. Donc, on m'a donné une certaine éducation. Mais je pense que ce qui me tenait en vie, ce qui m'a tenu en vie, ce qui me tient en vie, c'était mon amour pour la vie, pour cette existence qui est la mienne, ce désir énorme de liberté et de envie d'apprendre, quoi.
Ça, vous l'avez toujours eu, en fin de compte,
oui.
Vous.
Hein? Oui.
Presque dès la naissance, vous aviez envie de découvrir le monde.
Oui, parce que c'est même bizarre, voire ridicule aussi. Je suis née à 7 mois, donc j'étais même pressée de
savoir ce qui se passait à l'extérieur.
Voilà, tout à fait. De naître, quoi.
Et après, alors, comment vous êtes... c'est bien de se passionner pour la France et tout, mais
oui.
N'ayant pas quand même beaucoup d'argent, qu'est-ce que vous avez fait en Italie et comment vous avez réussi à passer le pas et à venir en France ?
Parce que, donc, j'ai par la suite voyagé pas mal en Italie et dans d'autres pays européens, comme la Suisse française un petit peu, la Belgique ou l'Allemagne, un petit peu partout en Italie. Mais c'est surtout parce qu'en Italie, à Rome, j'ai rencontré une personne de nationalité française qui a compté énormément pour moi.
Et donc, ça vous ancrait encore plus dans votre...
Mais oui.
Dans votre envie de la France.
Mais oui, quand il m'a rencontré, Lucien, il m'a dit « Vu ton attachement, ton amour viscéral que tu as vers ce pays, j'estime que tu as déjà vécu des vies antérieures en France et il faut que tu rentres chez toi. »
Donc. Et voilà. Ça vous a parlé ?
Oui, tout à fait. Oui, totalement. Totalement.
Mais alors... Et vous avez décidé, vous avez choisi comme métier d'être journaliste quand même.
Oui, je voulais être ça. Je voulais faire ça pour me prouver que j'étais capable et pour défendre mon désir de liberté et de vie, quoi. Pour devenir le seul maître de ma vie et ne plus jamais être écrasé par rien et ni personne.
Et votre métier de journaliste, vous avez commencé à l'exercer en Italie ?
Oui, mais je l'ai appris surtout sur le tas. Et puis,
moi, c'est souvent comme ça que ça s'apprend. Hein.
Et puis vite, petit à petit, j'ai ouvert des portes vers la France, vers d'autres pays, vers la Belgique, etc. Mais surtout vers la France, parce que je voulais revenir à la maison.
Mais qu'est-ce que vous avez fait qu'est-ce que vous faisiez comme journaliste en Italie au départ ? Parce que vous avez commencé là.
C'était donc un travail de rédaction d'articles, reportage télé, interview radio, un petit peu de montage de reportage.
Non, mais c'est déjà
pas
mal, on ne peut pas tout faire. Hein.
Oui.
Alors, vous avez rencontré quand même des artistes en Italie ?
Oui, énormément. Bon, écoutez, par exemple, la première qui m'est venue à l'esprit comme ça, pour le compte de plusieurs magazines français et belges à l'époque, c'était la réalisatrice Liliana Cavani, par exemple. Ouais. Et puis ensuite, ici à Paris, c'était Michel Petrucciani, qui nous a quittés très tôt, hélas. Et puis Jean-Jacques Benex, et puis Patrick Sgal, et puis plein d'autres.
Oui, plein d'autres, voilà.
Oui, Richard Cochant, Didi Bridgewater, Claudia Cardinale, etc., etc.
Et alors là, vous avez commencé en Italie, et comment vous avez fait pour justement vous retrouver en France ? Parce que ce n'est pas évident quand même de changer de pays.
Non, mais c'était dans mon cœur, c'était dans ma tête, dans mon esprit. Et donc, tout ce que j'ai fait, c'était pour arriver en France à la fin. Donc, parce que ma rencontre avec Lucien était déterminante. Lui, il m'a permis de quitter le fauteuil, entre autres. Et puis,
oui, parce que jusque-là, vous étiez en fauteuil.
C'est-à-dire que ça n'allait pas très bien dans mon corps et dans ma tête. Et donc, je voulais aller au-delà de moi-même, partir, aller au-delà, aller à toujours un peu plus loin. Et c'est d'ailleurs ce qui me motive encore aujourd'hui. Et c'est la rencontre avec Lucien a été déterminante. Aussi parce que Lucien, avant de devenir thérapeute, il a eu un passé de danseur première étoile pour l'Europe, c'est-à-dire pour la Belgique, la France et l'Italie, tout en étant de nationalité française, de Lyon. Et puis, il a énormément aussi, en étant plus jeune, il a énormément travaillé dans le cinéma,
voilà.
Des longs-métrages.
Donc là, il vous a donné l'envie. Puis vous, est-ce que, alors, en arrivant en France, à Paris, hein, je crois que vous êtes arrivé à Paris,
oui.
Est-ce que ça a correspondu à ce que vous attendiez?
Non, pas tout à fait, mais vous savez, quand on tombe amoureuse...
Oui, c'est pas pour ça que l'autre est parfait.
D'un pays ou d'un homme, on aime cet homme, on aime cet pays, on aime d'abord les défauts chez l'autre. Mm. Hein, donc, mais on aime totalement que les défauts, on ne les voit pas. Donc, et ça a été comme ça pour moi, et d'ailleurs, ça continue à être comme ça.
Mais pourtant, vous avez vécu des tas de choses quand même difficiles.
Oui.
Vous avez connu la rue. Là.
Oui. Mais oui, mais la rue, pour moi, c'était normal. Je m'attendais à ça. Quand je suis partie pour rentrer en France, je l'avais mis en compte. Je me suis dit, si ça tourne mal, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais en faire de moi-même? Qu'est-ce que je vais devenir? Je le savais. Donc, mais si je suis arrivée à la rue, j'ai vécu dans la rue à peu près une année. Donc, je suis sortie dans la rue, c'était le mardi 22 mars 2011, c'était un mardi, et j'ai quitté la rue le 29 janvier 2012.
Oui, donc c'est quasiment un an, oui.
Donc, un an, et...
Mais alors, est-ce que c'est...
Mais je l'ai fait pour garder intacte ma liberté, mon intelligence, la conscience de moi-même et mon indépendance.
Mais c'est encore plus parce que vous avez du mal à vous mouvoir. Hein. Vous avez quand même des difficultés à vous mouvoir.
Oui.
Vous avez aussi des douleurs parce que vous avez une polyarthrite ankylosante aussi. Et puis bon, ça. Alors, est-ce que c'est encore plus difficile la rue quand on est comme ça?
Oui. Bon, c'est l'horreur. C'est quelque chose d'indéfinissable. D'ailleurs, quand j'y pense encore aujourd'hui, je me dis comment j'ai réussi à survivre à tout ça et à survivre à moi-même, parce qu'on survit au froid, à la faim, à l'abandon, à la peur, à la violence, à tout. Il y a quelque chose.
Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont aidé quand même?
Énormément, mais je veux dire, une femme dans la rue avec une canne, ça fait encore plus peur.
Et oui.
Donc, après, chacun réagit à sa manière, et surtout, les gens avaient du mal. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, ont du mal à comprendre les raisons de mon choix, de mes choix. Mais une vie sans liberté, c'est pas une vie. Moi, j'ai envie de rester libre, de continuer à être libre et de continuer à être le seul maître de moi-même. D'ailleurs, c'est l'immense cadeau que Lucien m'a fait ou qui m'a permis de la profonde réalité, la profonde vérité qui était depuis toujours en moi et qui lui.
Et vous êtes toujours en relation avec Lucien?
Non, c'est son choix.
Non, mais
choix
et au moins une fois par an, non, pas du tout.
Non, c'est son choix et c'est mon choix. C'est-à-dire que ça a été la seule personne, le seul homme, la seule présence tout au long de mon chemin, de ma vie, qui m'a accompagnée. Et depuis quelques années, quelques temps, il m'a demandé gentiment, avec beaucoup d'amour et de respect, de partir. Et j'ai accepté ça. Donc, on dit que peut-être quand l'élève dépasse le maître, c'est bien de permettre au maître de partir. On se sépare, mais évidemment, il est toujours là dans
mon
cœur.
Oui, bien sûr. On va faire une pause musicale en parlant de partir et puis on se retrouve tout de suite après.
De 10h à 11h, la santé mentale en question avec Anne Voileau.
Angela Congedo, donc c'est déjà la deuxième partie. Hein. Ça va vite avec vous parce que vous avez une vie, c'est un roman. Je vous dis toujours, il faudrait l'écrire. Alors, je crois que vous y êtes mis.
Oui, tout à fait, mais ce n'est pas un livre en fait. Pour le moment, c'est un projet d'écriture parce que j'adore ça. Et évidemment, j'en voudrais... En faire
quelque chose.
Quelque chose. Et plus
mais c'est un gros travail, non? Ça remue beaucoup parce que vous êtes reparti quasiment de votre naissance.
Oui, en fait, moi, je voudrais en faire. Je suis en train de m'engager pour ça et de me battre, entre guillemets, pour ça. C'est que je veux en faire un long métrage pour le cinéma français, pour mon amour, qui est la France. Et dont le titre serait « Pas silenti », parlant. Comment, malgré la lenteur de mes pas, j'ai réussi à faire beaucoup de chemin et j'arrive malgré
ça,
tout.
Ça, c'est long comme titre. Hein.
Pas silenti.
Ah oui, parce qu'après...
Slowly steps en anglais.
Oui, alors en français.
Pas lent. Mais c'est pour rendre hommage à la lenteur, en fait. Mm. Mais ce n'est pas l'énième film sur l'handicap avec lequel je dis aux gens, allez-y, sortez les mouchoirs, on va pleurer, je vous montre
Ah non, handicap. C'est pas tellement ça. Hein.
Non, c'est pas du tout ça. C'est mon histoire de vie, mon histoire de personne et de femme, basée sur mon immense désir de vie et de liberté, et pour prouver que mais pour témoigner tout simplement que peut-être dans la vie, parfois, les choses à réaliser sont pas faciles à réaliser, mais que c'est tout à fait possible.
Mais ça n'empêche pas de lutter.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que... Mais pas de lutter dans le... C'est-à-dire, pour moi, la vie n'est pas un combat. J'aime la vie, j'aime cette vie qui est la mienne. Je m'amuse tout en étant très lucide, mais j'ai énormément confiance en moi. Mais ce n'est pas un combat. Je vis la vie à chaque instant, je laisse venir les choses et je garde confiance.
Moi, j'aime bien l'idée de, quand vous parlez toujours de tortue cosmique.
Oui.
Parce qu'une tortue, ça ne va pas vite, mais en même temps, cosmique, ça remplit le monde quand même.
En fait, le concept de tortue cosmique entre aussi dans le film. Et là, je vais un peu réfléchir à comment donner présence, concrétiser cette image.
Oui, parce que c'est une image qui parle beaucoup.
Oui, parle beaucoup parce que tortue, parce que j'ai un corps qui marche lentement et lentement avec fatigue, donc lentement comme une tortue. Et par contre, j'ai un esprit qui est très, totalement libre et qui court très, très vite. Donc, tortue cosmique.
Mais voilà. C'est bien, moi j'aime bien. Voilà. J'aime bien ce concept.
Et puis, c'est un film qui commence en honneur à ma liberté, qui commence dans la rue et qui finit dans la rue. Il n'y a pas de fin, de comment dirais-je. C'est pas du tout, ils se marièrent, ils errent des enfants, etc.
Oui.
Non.
Voilà. Ça a déjà été fait quand même, hein. On peut changer.
Oui, non, mais j'y crois pas. Donc, c'est plus pour témoigner de beaucoup de choses et donc faire parler la réalité, la vérité. La réalité qui a été la mienne, qui est la mienne en tout cas.
Oui, puis qui est souvent aussi une réalité, malheureusement, un peu du monde. Vous n'êtes pas la seule à... Voilà,
oui.
c'est ça qui est important.
Tout à fait. Je pense que dans ce film, dans ce long métrage qui naîtra prochainement, je l'espère de tout mon cœur, toute personne, homme ou femme, peut reconnaître, handicapé ou pas, quelques instants de sa propre existence. J'ai dit à quelqu'un que j'apprécie beaucoup, dont je ne ferai pas le nom, que ma vie est comme un morceau de fond de bouteille jeté par terre, dans lequel toute personne, homme ou femme, handicapée ou pas, peut reconnaître, si elle le souhaite, quelques instants de sa propre existence, parce que je suis une femme seule, étrangère, journaliste, avec un handicap moteur, etc., etc. J'ai vécu, j'ai survécu la rue, je fais encore des choses, je me bats encore contre beaucoup de choses, et voilà. Ouais. Alors il y a tout.
Ah oui, absolument, tout le monde peut se reconnaître à certains passages de la vie.
Oui.
Alors, vous posiez une bonne question tout à l'heure en arrivant. Quelle est la place de des personnes handicapées en Europe et comment elles peuvent vraiment s'inclure dans la vie aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que ça a évolué depuis que vous étiez jeune et que vous êtes arrivée à Paris et que ça évolue pas? Qu'est-ce que vous ressentez, vous, et quelles questions vous posez?
Honnêtement, non. Je ne vois pas que la réalité progresse. Au contraire, par moments, j'ai presque le sentiment qu'on recule, parce que si on pense que l'Angleterre veut sortir de l'Union européenne ou qu'il y a cette réalité indicible pour les sans-papiers, des immigrants qui arrivent au Pas-de-Calais ou à Lampedusa en Italie, et que, voilà, je veux dire, si on regarde tout ça autour de nous, de moi, je me dis non, on progresse pas en Europe. Donc, quelle est la place des personnes handicapées? Je pense que parler de l'intégration des personnes handicapées aujourd'hui, de l'ultérieure intégration des personnes handicapées aujourd'hui, c'est presque un acte osé, en tant que courage et osé dans le sens que ça fait scandale, parce que voilà, on est dans la réalité, dans une réalité extrêmement complexe et difficile de plus en plus. Donc moi, j'aimerais bien que l'intégration se fasse plus grâce à une ouverture d'esprit. C'est-à-dire dire aux personnes handicapées physiques ou psychologiques, voilà, je t'accepte dans cet établissement, que ce soit en France ou en Espagne ou en Allemagne, peu importe, parce que toi aussi, tu es un client comme les autres, au-delà de ta canne, de ton fauteuil, de ton de ta machine pour respirer, peu importe. Et pas parce qu'il y a des lois européennes qui imposent ça. Parce que de l'autre côté, la personne qui sera en face de moi, elle va m'accepter parce qu'elle est contrainte.
Parce qu'elle aura voulu.
Elle est obligée de le faire, elle est contrainte de le faire parce qu'elle veut aussi se montrer à soi-même et aux autres plus ouverte, plus évoluée. Mais au fond, on voit le regard...
C'est une obligation.
Voilà, le regard n'est pas ouvert.
D'un autre côté, quelquefois, on oblige un peu, la loi de 2005 oblige un peu à une accessibilité universelle. D'un autre côté, peut-être qu'en obligeant, les gens s'aperçoivent que la personne handicapée, ce n'est pas ce qu'elle pensait.
Oui,
ça
mais,
peut aider.
Oui, tout à fait, mais c'est aussi à la personne handicapée d'aller vers l'autre et d'apprendre surtout à s'assumer. C'est-à-dire, si on m'ouvre la porte parce que je dois entrer dans un cinéma ou dans un théâtre, c'est très bien et je remercie. De ce choix et de cette attitude de la personne qui est en face de moi. Mais c'est à moi d'arriver au théâtre pour aller voir mon film ou aller voir ma pièce. C'est-à-dire, c'est à la personne handicapée aussi, en ayant tout handicap, de sortir de ce comportement, de cette attitude d'assistante, arrêter de se voir handicapée.
Oui, mais d'un autre côté, si par exemple quelqu'un est en fauteuil et s'il ne peut pas traverser la rue, il a un problème.
Tout à fait, mais oui. Voilà pourquoi, oui, mais déjà, le fait d'oser, au-delà de son fauteuil ou pas, de sortir dans la rue, c'est le premier pas.
Mais ça, je pense que ça marche de plus en plus, ça.
Mais je l'espère, oui. Mais en tout
Par
cas...
Par contre, la personne se retrouve souvent avec des problèmes. Mais ça, c'est autre chose.
Ça, c'est évident, parce que moi aussi, quand je sors et je suis toute seule dans la rue avec ma canne, et de l'autre côté, j'approche le mur quand j'ai pas la chance de rencontrer une main qui accepte, qui choisit de m'aider... C'est un problème, un risque, un inconnu que je prends en compte. Mais l'intégration, ça se fait comme ça. C'est à moi d'aller vers les autres et de leur témoigner que je suis là, que je prends ma place. Et que même si ce n'est pas facile, c'est tout à fait possible.
Mais comment se conduisent donc les gens à Paris par rapport à vous ? Il y a tout ?
Il y a de tout. Il y a de tout. C'est-à-dire que quand je sors dans la rue, j'ai la chance d'être assez forte. D'un point de vue psychologique, mental, spirituel, pas physique. Et donc, il y a beaucoup de gens qui font semblant de ne pas me voir, ni de m'entendre. Et il y en a beaucoup d'autres qui viennent très immédiatement, de façon très spontanée, vers moi.
Oui, donc il y a les deux.
Il y a les deux. Donc, et puis, c'est à moi d'être capable, quand je rentre chez moi, d'effacer le négatif et regarder,
oui, bah oui,
regarder que le bon.
C'est comme il y a du bon, autant s'accrocher, oui, au bon quand même.
Oui, mais c'est, ça devient une aventure dans les déplacements, dans le voyage. Et c'est comme si je joue à la roulette, en fait. Mais pour moi, ce n'est pas un problème parce que je suis une joueuse et j'adore ça, ce n'est pas un problème. Mais je suis tout à fait consciente aussi des difficultés, de la peur, des préjugés et de la fatigue de mon côté que ça comporte.
Et il y a combien de temps que vous êtes en France alors maintenant ?
Oh, ça fait plusieurs années.
À peu près.
Ça fait plusieurs années.
Ça fait plus de 10 ans.
Oui.
Oui, voilà.
Mais je ne suis pas encore française. Je continue à être une citoyenne européenne.
Ah, c'est mieux. Ça a grandi.
Oui.
Ça a grandi votre géographie, quand même.
Oui, tout à fait. Mais bon, j'aimerais bien qu'à la fin, je puisse, me sentir vraiment chez moi, quoi. Me sentir française. Bon, je suis française de cœur.
Et alors, qu'est-ce qui manque pour que vous ayez vos papiers français ?
Il y a de tout qui manque.
Ah bon, mais encore ?
Comment ?
Mais encore ?
Il y a tout qui manque. Alors, si mon film se réalisera, se fera, peut-être que les gens...
Ça aidera peut-être, oui.
Énormément. C'est-à-dire que les gens qui sont au-delà vont s'apercevoir qu'une petite femme comme moi, Angela, n'était pas là pour déranger, mais elle était là pour apporter toutes ses compétences, son expérience humaine, professionnelle, etc.
Et son amour.
Oui, ça c'est la première chose.
Oui, mais c'est important quand même,
oui,
de le dire.
C'est un immense amour qui continue à me séduire, à me baratiner.
Oui, et à vous tenir debout aussi.
Oui, ouais. C'est ma vie, c'est mon choix.
C'est votre force.
Oui.
Mais c'est une belle force.
Oui,
on va faire une pause musicale, on se retrouve tout de suite après.
Merci.
La santé mentale en question, Anne Voileau.
Angela, c'est déjà la dernière partie.
Oui.
Alors, moi, je pense que quand on écrit, vous écrivez sur votre vie, sur les moments les plus difficiles. Quand on le revit, c'est quand même pas facile à faire ça.
Oui, c'est-à-dire que l'écriture, c'est un travail très compliqué, presque indéfinissable, je dirais, parce que c'est une remise en question permanente de soi. Et quand on écrit, il faut apprendre, mettons, d'être face à soi-même, tout en étant avec les autres. Parce qu'il faut se mettre aussi à la place de l'autre qui peut-être va lire l'écrit. Ouais. Et ça peut être un article, ça peut être un scénario, peu importe. Donc, c'est un jeu d'équilibre. Et traiter de choses très dures comme qui concernent sa vie, sa propre vie, c'est pas évident. Parce qu'en fait, j'ai encore du mal à parler de ma vie dans la rue pour parler de ma rencontre avec ma propre mort, même si je connais ma mort depuis très longtemps.
Depuis presque l'enfance.
Tout à fait, depuis le moment de ma naissance, en fait.
Oui, parce que vous avez vu dans les yeux de vos parents qu'à la limite, vous seriez décédé, ça les gênait pas.
Au contraire, ils auraient souhaité ça, et même la sage-femme qui m'a permis d'aller vers la vie, elle s'est dit, non, elle m'a barré cette petite, d'ici ce soir, elle sera partie. Désolée pour elle, c'est moi qui ai gagné, j'ai même survécu au froid, etc., parce que je suis née le 24 février, quelque chose.
Oui, donc, mais votre ressource, on pense que vous l'attirez beaucoup quand même, c'est dans votre esprit, c'est dans votre, vous avez une certaine foi, une foi certaine même, je dirais, en la vie.
Oui, j'ai une foi dans la vie, mais je ne suis pas ni catholique, ni orthodoxe, ni rien du tout, tout en respectant toutes les religions existantes et possibles. Ce que je vis depuis notre vie, presque, c'est une philosophie individuelle qui est la spiritualité holistique. Et c'est cette philosophie que je vis constamment qui m'a dévoilée à moi-même.
Alors, vous pouvez peut-être nous expliquer un peu ce qu'est la philosophie holistique.
Donc, la philosophie holistique, c'est justement une philosophie qu'on ne peut vivre que seul. Je tiens à le souligner. Donc, il n'y a aucun groupe, aucune secte, il n'y a personne derrière. Et c'est une rencontre constante avec soi-même pour comprendre, en vivant ça à chaque instant du quotidien, que tout dépend de moi, que je peux être et je suis le maître absolu de ma vie, et qu'il faut en même temps que je fasse attention à moi-même, à ma raison, parce que c'est ma raison, par exemple, qui me dit que je dois avoir peur, mais la peur, ça n'existe pas. Parce qu'en fait, chacun de nous, il traîne derrière lui des vieilles mauvaises habitudes. C'est l'éducation qu'on m'a donnée qui n'était pas bonne. C'est quelqu'un qui m'a dit que je suis faible, handicapée, petite et incapable. Mais ça, c'est totalement faux. C'est vrai que je marche lentement, que j'ai mes problèmes, que je les aurai toujours, que je suis une tortue cosmique, mais je suis capable.
Je suis capable de faire avec ça, c'est ça en fait.
Voilà, c'est-à-dire que je suis persuadée que ce qui est important, en tout cas ce qui est important pour moi dans ma vie, c'est d'apprendre sans cesse à démystifier la réalité. J'ai un handicap, mais cet handicap, ce n'est pas quelque chose d'éclatant, d'extraordinaire, c'est exactement ma particularité, c'est un aspect particulier que j'ai. Oui. Moi, je marche avec ma canne,
Dirait quelqu'un est brun, quelqu'un...
Voilà. Comme quelqu'un d'autre porte des lunettes de soleil pendant l'été ou porte des lunettes tout court, où il est beau avec les yeux bleus, c'est exactement pareil. Donc, apprendre à démystifier, essayer de regarder en face l'autre et la réalité de l'autre tel qu'il est, c'est ça la clé de tout. Et d'ailleurs, j'ai écrit une phrase que j'aime beaucoup, parce que je me moque énormément de moi-même. Quand je suis toute seule, je médite pour moi, je médite pour les autres. C'est quoi la méditation? C'est un état de sérénité dans lequel je parle avec cette entité immense et universelle qui est tout et qui est partout, que pour moi est Dieu. Et cette phrase que j'ai écrite il y a quelques mois, que j'ai écrite assez récemment, dit « Sourire à l'autre qu'on aime, c'est se jouer de la mort ». L'autre, ça peut être l'ami garçon, toute personne que je rencontre et que j'aime, pour ce qu'il est. Et donc, et moi, je me joue constamment de ma mort. Mais parce que je connais ma mort. Je sais.
Oui, vous avez eu le temps de l'apprivoiser, quand même.
Oui, je sais de quoi je vais mourir, je la connais. On se connaît, on a passé un accord, je l'ai accepté, mais pas de façon passive, de façon active. Donc, voilà. Je sais qu'elle me donnera le temps bon et indispensable pour finir ce que j'ai commencé et peut-être faire d'autres choses. Mais tout simplement parce que j'ai compris en rencontrant, en connaissant Michel Petrucciani que j'ai aimé profondément et que je n'ai plus jamais eu la possibilité de revoir parce qu'on était loin, on avait beaucoup de gens entre lui et moi. Il y avait beaucoup de gens entre lui et moi. Il m'avait dit... au moment de notre rencontre, dans notre interview, ça me semble presque une autre vie pour moi et pour lui, il m'avait dit, on vit parce qu'on veut vivre et on meurt parce qu'on décide de s'en aller et on baisse les bras. Et je pense que ça aussi, c'est vrai. Et je le constate dans mon parcours et dans ma vie. Donc, mais je ne suis pas du tout pressée, au contraire, j'aime
non,
la vie.
Non, vous n'avez pas l'air très pressée, non.
Non, pas du tout, pas du tout.
Mais alors, par contre, où est-ce que vous trouvez, vous êtes très souriante?
Oui. Eh bien, ça... parce que quand je suis triste, ça m'arrive d'être triste.
Bah, je pense que ça m'arrive.
Je suis seule. Quand je suis triste, je suis fatiguée, je suis seule. Presque personne ne me voit. Et je me porte, je me traîne presque avec mes pas de tortue cosmique face à mon miroir. Et c'est là que je me sauve toute seule. C'est-à-dire que je me moque de moi-même parce que je me regarde dans la glace et je vois que les grimaces que je fais quand je
pleure, quand ça va pas. Oui.
Elles sont pas bonnes. Je deviens vieille, très vieille. Je montre tout, j'ai tout mon âge. Voilà.
Vous êtes jeune, vous n'exagérez pas.
Je ne sais pas. Donc, et là, je m'aperçois que sourire, c'est beaucoup mieux. Mais il faut que ça vienne du cœur, que ça vienne des tripes.
Oui, voilà. Mais vous, c'est vrai que quand vous souriez, ça vous change totalement. Mais ça se voit.
Oui, je me joue de la mort.
Ouais. Oui, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui... Ça vous est une autre quand vous souriez.
Oui, mais ce n'est pas facile parce que...
Ah non, mais je pense que... C'est peut-être pour ça que vous êtes une autre. Si c'était facile, ça ne voudrait rien dire. Mais je pense que votre sourire veut vraiment dire quelque chose.
Oui, mais je témoigne du fait que c'est possible. Que j'essaye d'être cohérente avec le choix que j'ai fait. C'était le choix de vivre, tout simplement. Et d'apprendre à être libre, à être moi-même avec mes limites, mes défauts, mon handicap, mes qualités.
Mais je pense que c'est une bonne leçon, là, de on va pas bien, on se regarde dans la glace et se sourire vraiment à soi-même, c'est pas mal quand même, c'est bien.
Oui.
Il faudrait que j'essaye.
Et aussi parce que j'ai découvert que quand on essaye de sourire à soi-même et donc de sourire aussi à l'autre.
Et à la vie, quelque part.
Ouais. Mais d'abord, c'est la vie. Hein. C'est d'abord à la vie. On a moins de rides aussi. Et donc, on fait même des économies, on n'achète pas trop de crème, etc. Donc, voilà.
Oui, et puis quand on, dans la rue, quand on sourit aux autres, on s'aperçoit que les gens, même si vous ne souriez pas en premier, ils sont très contents qu'on leur sourie.
Eh oui, mais parce que la vie se base sur une autre, sur plusieurs lois. Bon, même si elles ne sont pas nombreuses, il n'y en a pas des tonnes. C'est, dans la vie, c'est action-réaction. L'autre va réagir à mon comportement. Donc, même si l'autre peut aussi, il a totalement le droit d'avoir peur face à moi, face à moi et à ma canne, parce que malgré moi, je suis le témoignage du fait qu'on n'est pas éternel, on n'est pas intouchable, on n'est pas parfait.
Ouais, peut-être que les gens ont peur d'eux-mêmes plus que de vous.
Oui, c'est l'effet miroir.
Ouais, voilà,
ouais. Et c'est la peur de
ça peut m'arriver.
Oui, bah, oui, parce que en étant une femme avec un handicap ou une canne, et d'ailleurs, il y a quelqu'un que je pense, c'est une dame qui m'aime beaucoup, qui m'apprécie beaucoup, il m'a dit, j'aimerais pour toi que les gens commencent au moins, dans ton cas, à parler plus jamais de handicap, mais plutôt de troubles de la marche, parce que tu as quitté le fauteuil, j'étais en fauteuil avant, cette maladie progressive que j'ai et qui ne me quittera jamais jusqu'à la fin, donc on s'aime beaucoup, m'avait amené en fauteuil. Donc elle m'a dit, j'aimerais que les autres comprennent qu'au moins dans ton cas, et tu es un bon témoignage pour ça, c'est elle qui l'a dit, pas du tout moi, tu ne vis que des troubles de la marche, parce que tu marches avec ta canne, tu utilises ta canne pour marcher, pour te tenir debout et que tu t'appuies aussi au mur ou sinon à la personne que tu rencontres, et c'est un moment d'échange. Donc voilà, je pense que...
Oui, moi j'avais une amie qui était IMC aussi, qui a des troubles de la marche, et je disais qu'elle marchait avec un accent. Ça vous irait très bien, ça.
C'est-à-dire...
Comme on parle avec un accent, elle marche avec un accent.
Vous voulez dire plus penchée sur un côté
ou... Non, juste que c'est ça marche à elle.
Oui, c'est sa manière.
Voilà, comme vous avez un accent un petit peu, c'est votre accent à vous, c'est votre façon de parler à vous.
Oui.
Vous avez aussi votre façon de marcher.
Oui, merci beaucoup. J'ai essayé de me mettre un crayon dans la bouche, mais ça fait très
bien. Non, mais c'est génial. Vous gardez son accent, donc, c'est très bien. C'est charmant. Franchement, merci. Ne changez pas.
Merci beaucoup.
Non, changez rien. Mais donc, c'est ça, c'est plus quelque chose qui vous est particulier, mais pas forcément le décrire sous le mot de handicap.
La façon de marcher. Oui, mais après, si l'autre voit en moi un handicap...
Oui, c'est pas gênant.
Il est libre aussi, mais encore plus. Ça prouve, alors, ma manière d'être témoigne encore plus, de manière encore plus forte, que même si j'ai un handicap, c'est possible. C'est pas facile, mais c'est possible. Et si vous m'écoutez avec un minimum d'intérêt ou de curiosité, vous verrez bien que j'utilise pas trop le mot français difficile, parce que je n'aime pas. Déjà, ça m'a fait mal à la langue de le prononcer, c'est trop compliqué pour moi. Et je préfère dire aux autres que c'est pas facile, mais c'est possible. Donc, parce que j'en suis persuadée de ça.
Écoutez, merci beaucoup. Alors, vous viendrez la prochaine fois nous voir quand ce long métrage sera fait.
Je l'espère.
Il n'y a pas de raison, touche du bois. Merci beaucoup, Angela.
Merci beaucoup.
À bientôt.
À bientôt. Au revoir.
Vivre FM, podcast.